Comment faut-il écouter la parole de Dieu? Il faut écouter la parole de Dieu avec assiduité, nous y préparer et prier pour la comprendre. Nous devons la recevoir avec foi et amour, la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. Je vous invite à tourner dans vos Bibles en 1 Pierre 2, 18 à 25, à la page 264 dans notre Nouveau Testament. 1 Pierre 2, 18 à 25 sera notre première lecture ce matin. Page 264 dans notre Nouveau Testament. Juste avant cette lecture, nous prions. Oui, Éternel, comme l'ont compris depuis toujours tes enfants bien-aimés, nous avons besoin de prier pour comprendre ta parole et pour recevoir de toi la force de la mettre en action, en pratique dans nos vies. Combien c'est important. Accorde-nous, nous t'en prions, ce matin, ta lumière, la lumière de l'Esprit-Saint et la force de l'Esprit-Saint pour que nous puissions être saisis par ta parole, par ta vérité, que nous puissions être convaincus, que nous puissions partir d'ici en mettant en action et en pratique tes préceptes, ta vérité, tes bons enseignements. Ô Seigneur notre Dieu, fais-nous du bien ce matin à l'écoute de ta vérité. Ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, amen. Écoutons cette première lecture, 1 Pierre 2, 18 à 25. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Notre deuxième lecture est en 1 Pierre 4, le verset 19, à la page 265. 1 Pierre 4, le verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Amen. Le petit Angelo, 4 ans, se réveille un matin et se rend compte que son nouveau chien a tout mordillé sa guitare en plastique. Et il fait une crise de larmes incroyable. Les nerfs de sa mère se tendent, et juste avant que son mari parte au travail, elle l'engueule. Son mari arrive au bureau, encore avec le souvenir frais de cet au revoir un peu décourageant, et il donne des consignes sèches et déraisonnables à sa secrétaire. Sa secrétaire se fait prendre elle aussi à la pause café. Elle s'en prend à une collègue secrétaire et l'engueule. À la fin de la journée, cette collègue secrétaire dit qu'elle n'en peut plus et qu'elle se prépare à démissionner. Le patron part du bureau, s'en va chez lui et en arrivant chez lui, il voit traîner dans la cour la bicyclette de son petit Nelson et il lui fait une crise. Le petit Nelson monte dans sa chambre, ferme la porte de toutes ses forces et donne un bon coup de pied à son chat. Ça va arrêter où, cette affaire-là? Il suffisait qu'une de ces personnes accepte d'être traitée injustement et l'escalade aurait pris fin. Ça aurait été la désescalade. Il suffisait qu'une personne accepte d'être traitée injustement. Être traitée injustement. La prédication de dimanche dernier s'était terminée avec deux questions. Nous nous étions demandé comment le Fils de Dieu a-t-il pu supporter les souffrances injustes contre lui et comment nous pouvons, nous aussi, supporter les souffrances injustes qui sont faites contre nous. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre répond très clairement à ces questions qui sont importantes. Au verset 19, en 1 Pierre 2, il y a les mots « quand on souffre injustement ». L'apôtre Pierre, inspiré de Dieu, nous indique la voie à suivre quand on souffre injustement. Quelle est cette voie que nous devons suivre? C'est la voie que le Fils de Dieu lui-même a suivie. Regardez bien les versets 21 à 23 que je relis maintenant. Suivez avec moi dans votre Bible. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Arrêtons-nous premièrement à ces mots du verset 21. Christ vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le verbe grec utilisé ici était à l'époque un terme scolaire pour parler de tracer une lettre ou un dessin ou une esquisse pour qu'un enfant puisse écrire par-dessus pour apprendre. Christ vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est quoi son exemple? Son exemple, c'est qu'il acceptait d'être traité injustement. Lorsqu'il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Lorsqu'on le faisait souffrir, il ne faisait pas de menace. Il aurait pu appeler. Vite, une légion d'anges serait descendue à son secours et aurait foudroyé en une seconde tous ses ennemis. Il aurait pu demander justice et expliquer son innocence, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, ça appartient à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a accepté d'être traité injustement. Quand on vous insulte, quand on est injuste à votre égard, ce qui arrive à tout le monde, qu'est-ce que vous faites? La réponse instinctive, première, c'est d'insulter la personne qui nous a insultés. C'est de répondre durement. C'est de mépriser la personne qui nous a méprisés. Des millions de divorces dans le monde sont le résultat de cette guéguerre d'égo à n'en plus finir où chacun tient mordicus à avoir raison et garoche à l'autre des pelletées de reproches et d'insultes. C'est important ici de bien noter que Pierre ne conseille pas d'exprimer notre colère tout azimut à ceux qui ont été incorrects envers nous, comme si l'expression de notre colère pouvait avoir une espèce de valeur thérapeutique quand il y a des injustices contre nous. Et c'est un des mythes d'une certaine psychologie populaire que quand quelqu'un se conduit mal envers nous, il est important de se défouler, d'exploser, d'exprimer notre colère. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, mais en fait, c'est une attitude qui n'est pas chrétienne, mais aussi qui ne règle pas les problèmes et qui souvent ne fait qu'augmenter les tensions et la rage entre les personnes. L'apôtre Pierre ne nous conseille pas cette voie-là. Il ne nous dit pas, comme presque tous les films que vous écoutez, « Vengez-vous, rendez l'appareil, exigez vos droits, réclamez des excuses, battez-vous jusqu'à la mort pour vos droits. » Non, 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 l'apôtre Pierre ne va pas dans cette direction-là, évidemment. Vous pouvez trouver dans les librairies plein de livres qui proposent des paroles outrageantes pour remettre les autres à leur place. Il y a toutes ces façons de voir dans la vie. Aujourd'hui, Pierre ne nous dirige pas dans cette voie-là. Notez bien aussi, c'est important qu'il ne nous dirige pas non plus dans l'attitude, disons, contrairement opposée, c'est-à-dire de contenir, de retenir, de refouler notre colère. Il ne va pas dans cette direction-là non plus, ce qui peut causer bien des problèmes, parfois des problèmes même physiques. Le Fils de Dieu n'a pas explosé, n'a pas refoulé sa colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça nous amène à notre deuxième point. Aux paroles suivantes du verset 23. « Il s'en remettait à celui qui juge justement. » Pierre va nous encourager, nous exhorter, ses lecteurs et nous, à continuellement et répétitivement aller remettre à Dieu, s'en remettre à Dieu, lui remettre la situation de souffrance injuste qui est la nôtre. C'est ce que le Fils de Dieu a fait. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà ce que nous devons faire, en parler au Seigneur, tout lui remettre, tout déposer à ses pieds, nous confier en lui. Il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est le titre du sermon de ce matin et c'est le message principal de la prédication d'aujourd'hui. Nous devons tous repartir d'ici aujourd'hui avec ces mots dans l'esprit, dans nos cœurs. « Il s'en remettait à celui qui juge justement. » Le chrétien qui souffre injustement se confie en Dieu. Il croit que Dieu est en contrôle de la situation. Dieu est souverain et le Fils de Dieu nous a donné la voie à suivre. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne faisait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Quand Pierre appelle Dieu celui qui juge justement, ça nous indique que Dieu, comme juge, tôt ou tard, va ou bien faire payer les injustes, ou bien leur pardonner s'ils se repentent parce que Jésus a porté le poids de leurs péchés. Dieu est toujours juste et équitable. Toujours. La Bible dit, je l'ai évoqué la semaine dernière, que l'Éternel aime la justice. Elle dit que l'Éternel fait justice. Elle dit qu'il règne sur son trône en juste juge. Elle dit qu'il soutient la cause de ses bien-aimés. Elle dit aussi, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Cette certitude que Dieu va réparer toutes les injustices est essentielle pour nous, essentielle à la réponse des chrétiens aux souffrances injustes. Parce que Dieu a mis en nous, dans nos cœurs, un sens de la justice qui ne nous permet pas de simplement oublier les injustices qui sont faites contre nous. En remettant la situation à Dieu, en sachant avec certitude qu'ultimement Dieu fait toujours justice à ses élus, nous pouvons nous reposer, nous pouvons suivre les traces de notre Sauveur et continuer à faire le bien, comme Pierre écrit. J'aimerais vous rappeler deux exemples de croyants dans la Bible qui ont pratiqué cette vérité biblique, qui s'en sont remis au Seigneur alors qu'ils étaient maltraités. Le premier exemple est celui de David, nous lisons dans les psaumes. « Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des injures et murmurent tout le jour des tromperies. Mais moi, je fais le sourd. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et je ne réplique rien. C'est à toi, Éternel, que je m'attends. C'est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu. Ayant vécu de cette manière et expérimenté souvent cette réalité, David peut encourager les autres de la façon suivante. Dans un autre psaume, il dit « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, attends-toi à lui, ne t'irrite pas, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, mais espère en l'Éternel. Garde sa voix, il y a un avenir pour l'homme de paix. » Quand David dit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, c'est lui qui agira », il nous dit exactement la même chose que Pierre nous dit dans les versets que nous venons de lire. Un deuxième exemple, c'est l'exemple du prophète Jérémie. Écoutez bien ce qu'il dit. « L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. » C'est à toi que j'ai confié ma cause. Le prophète Jérémie vivait une situation extrêmement difficile et dangereuse. Il y avait beaucoup de personnes qui l'accusait de choses qui étaient inexactes, qu'il n'avait pas faites. Il y avait même des menaces de mort. Sa vie était en danger. Mais il ne s'est pas lancé dans des représailles ou des insultes, tout ça, mais il a remis sa cause au Seigneur. « C'est à toi que j'ai confié ma cause. » Il savait que Dieu est le juge véritablement juste, qui agit toujours avec justice. Donc, voilà ce qu'il a fait. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là pour nous, pour obtenir la paix quand nous sommes traités injustement, c'est de remettre notre cause au Seigneur. C'est à toi que j'ai confié ma cause. Salomon écrit dans le livre des Proverbes, « Ne dis pas, comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Ne dis pas, je rendrai le mal. Mais espère en l'Éternel et il te sauvera. » Espère en l'Éternel et il te sauvera. Prends l'injustice qui a été faite contre toi et remets-la au Seigneur. Espère en Dieu. Confie-toi en lui. Le désir de vengeance personnelle vient parfois du manque de foi en Dieu, du manque de confiance en Dieu. On dirait que nous ne croyons pas vraiment que Dieu est juste et qu'il va faire justice à ses élus. Ces exemples s'harmonisent tout à fait avec notre deuxième lecture, 1 Pierre 4, 19, regardez, où Pierre dit que ceux qui souffrent remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Remettre leur âme, s'en remettre et se reposer calmement sur Dieu, qui est notre Créateur, qui est notre Sauveur, qui nous a donné sa parole, qui nous a donné ses promesses, qui est un Dieu fidèle, qui prend soin de son peuple. C'est sage et sensé et logique et ce qu'il faut faire, s'en remettre à Dieu. Ceux qui souffrent injustement, donc, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en attendant son secours. Le titre « Créateur » est très intéressant. Ici, c'est frappant. Le Dieu de notre salut, c'est le Dieu Créateur, la même puissance qui a été à l'œuvre pour créer, pour sauver, est aussi à l'œuvre pour prendre soin des enfants de Dieu. Et le Seigneur, tôt ou tard, au meilleur moment, intervient pour délivrer ses bien-aimés. Quelle puissance, quelle grandeur notre grand protecteur a. C'est en lui que nous devons nous confier. Pierre évoque sa toute-puissance. Jésus s'en remettait à celui qui juge justement. Le verbe « remettre » est le même verbe des derniers mots de Jésus sur la croix. lorsqu'il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Comment concrètement Jésus s'en remettait à son Père? Comment concrètement nous pouvons nous en remettre à Dieu? C'est par la prière. C'est par la prière. Notre Sauveur a passé de nombreuses nuits en prière. Il priait. C'est comme ça que nous aussi, nous nous en remettons à Dieu. « Seigneur, me voici devant toi. J'ai été victime de telle, telle injustice, de mauvais traitement. Je te remets. Je m'en remets à toi et je te remets. Ce qui en moi est en train de bouillonner, l'aigreur, le ressentiment, le désir de me venger, la colère qui est là, l'amertume, je te remets tout ça, je m'en remets à toi. C'est ce que tu me demandes, c'est ce que je fais. C'est ce qu'a fait le Fils de Dieu. Il s'en remettait à celui qui juge. Justement, c'est notre exemple que nous voulons suivre. » Arrêtons-nous troisièmement aux paroles suivantes du verset 24. « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » Le Fils de Dieu nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces, mais il n'est pas qu'un exemple, il est plus qu'un exemple. Et avec le verset 24, nous quittons la catégorie « exemple » et nous entrons dans la catégorie « substitution ». L'œuvre substitutive, expiatoire du Fils de Dieu. Si nous pouvons rompre avec la façon pécheresse de répondre aux injustices, c'est uniquement parce que le Fils de Dieu a expié nos fautes et a mis en nous son esprit pour que nous puissions être de nouvelles créatures. Verset 24 ne concerne plus ce que Jésus a fait pour nous laisser un exemple, mais le verset 24 concerne ce que Jésus a fait pour nous sauver et nous rendre capables de suivre son exemple face aux injustices. C'est le sens expiatoire de sa souffrance. Il est à la fois le berger et la brebis qui se laisse conduire à notre place. Il est à la fois l'agneau qui ôte le péché du monde et le pasteur qui prend soin des agneaux dont il ôte le péché. Il ne nous demande rien qu'il n'ait d'abord été lui-même parfaitement pour nous ou qu'il n'ait pas fait pour nous. Je suis certain que nous avons tous déjà été accusés de quelque chose que nous n'avions pas fait. Mais il est arrivé aussi souvent que nous n'avons pas été accusés de quelque chose que nous avions fait. Le Fils de Dieu, lui, n'a jamais commis d'injustice. Jamais. La croix de Jésus a été, on pourrait dire, la pire injustice de toute l'histoire de l'humanité. Mais il a plu à Dieu le Père que son Fils la subisse entre les mains des pécheurs pour que la justice du Père soit satisfaite pour les coupables que nous sommes, nous, les pécheurs et les injustes. En 1 Pierre 3, verset 18, Pierre écrit « Christ est mort pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. » Lui, le juste pour des injustes, les injustes, c'est nous. L'exemple de Jésus, qui a subi parfaitement les injustices en s'en remettant à son Père, serait un exemple vain et inutile et ne pourrait pas être suivi, même de loin, par qui que ce soit, si Jésus, par son sacrifice à la croix, ne nous donnait pas la guérison, le pardon. Et c'est ça qui rend possible pour nous de pouvoir suivre un exemple comme le sien, c'est-à-dire nous en remettre à Dieu qui juge justement. Dans son livre intitulé « La braise et les cendres, ranimer le feu de la foi et de l'amour dans l'Église », pour donner une espérance au monde, Francis Schaeffer écrit nous pouvons faire mieux que ce que nos penchants naturels nous poussent à faire. Mais pour cela, il convient de compter sur la force et la grâce du Dieu vivant. Cette force et cette grâce du Dieu vivant, c'est Jésus-Christ qui nous l'a acquis par son sacrifice à la croix. Nous apprenons et nous recevons de lui la grâce de suivre son exemple. Nous sommes victimes d'une injustice, voilà une occasion en or qui se présente, de marcher sur les traces de notre Sauveur, en connaissant la volonté du Père, l'exemple du Fils, la puissance de l'Esprit-Saint. Nous apprenons à supporter les mauvais traitements selon ce qu'a fait le Fils de Dieu et nous démontrons ainsi aux autres l'exemple d'un amour supérieur, comme dit 1 Corinthiens 13. Dans une réaction en chaîne de frustration et de colère, comme mon illustration de départ le montrait, soyons donc, nous, le lieu où prend fin l'escalade et apprenons à être traités injustement en nous souvenant du Fils de Dieu. Ne répondons pas naturellement, mais surnaturellement par la puissance de Dieu. Jésus s'en est remis à son Père tout au long de sa vie. Le dernier acte de Jésus sur la croix, son attitude face à sa mort injuste. Jésus s'écria d'une voix forte, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Malgré ses souffrances injustes, malgré son humiliation, il s'en est remis avec une confiance parfaite en son Père. Notre Sauveur nous a enseigné dans le sermon sur la montagne que devant les injustices, il ne s'agit pas pour nous de se tenir debout, de défendre nos droits à tout prix avec fracas et d'exiger ceci, cela, non. Mais de pratiquer ce bel altruisme chrétien où on s'oublie et on pense au Seigneur. C'est comme s'il nous dit, si on vous offense, montrez par votre réponse que vous ne sentez pas le besoin de faire des représailles aux autres. Vous n'avez plus de réputation à sécuriser devant Dieu. Vous êtes son enfant. Que votre réponse à l'offense soit gracieuse, tout comme la réponse de Dieu envers vos offenses est gracieuse. Est-ce que quelqu'un pourra être gagné pour le royaume de Dieu par nos chicaneries puis nos vengeances? Non. Sûrement pas. Bon, remettez tout entre les mains du Seigneur avec une confiance inébranlable. Parfois, c'est notre manque de confiance qui nous empêche de faire ça. L'épître de Jacques dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La vraie bonne méthode pour faire face au traitement injuste qui nous donne la paix et qui reçoit l'approbation de Dieu, c'est de tout remettre entre les bonnes mains du Seigneur. Pas pour qu'il exécute nos passions vengeresses, non, pour faire comme le Fils de Dieu et lui laisser la situation. Ce n'est jamais la haine qui met fin à la haine. C'est l'amour qui met fin à la haine. Une bataille ne commence qu'avec le deuxième coup. Je termine ce matin avec les paroles suivantes de Jonathan Edwards. Quand nous aimons Dieu comme il se doit, nous avons un tel sentiment de sa merveilleuse patience envers nous que ça nous semble bien peu de chose de supporter les mauvais traitements des autres contre nous. Je répète. Quand nous aimons Dieu comme il se doit, nous avons un tel sentiment de sa merveilleuse patience envers nous que ça nous semble bien peu de chose de supporter les mauvais traitements des autres contre nous. Amen.